Rassurez-vous, moi je ne fais pas de discours, je lance directement les hostilités. On a du pain sur la planche du coup pour cette journée qu'on a voulu dans ces pratiques. Donc du coup on va commencer par la première partie, construire une programmation culturelle autour du jeu vidéo du coup, avec Julien Prost, qui est chargé de formation à la Sorbonne et que vous connaissez sans doute parce qu'il était l'ancien directeur adjoint de la bibliothèque Louise Michel de la ville de Paris, et Théo Cuperol, qui est documentaliste et médiateur multimédia à la Gaîté Lyrique. Je vous invite à monter nous rejoindre. Un tout petit mot d'introduction, je vous ai dit qu'on avait une journée chargée, les introductions ont été parfaitement excellentes et du coup il n'y a rien à rajouter. On a essayé de penser ces journées d'une façon pratique, c'est-à-dire moi je sors de l'ENSIB et les longues conférences théoriques m'ont laissé un souvenir parfois un petit peu pénible, donc du coup on a essayé vraiment de penser des choses en demandant aux intervenants d'être très concrets. Normalement ils vont respecter cet exercice, je l'espère, et du coup avec deux parties, cette première partie qui va être sur la construction d'une programmation culturelle, de vraiment penser le jeu vidéo comme l'action culturelle. On a souvent posé la question de est-ce que techniquement c'est possible, est-ce que légalement c'est possible. Aujourd'hui on va essayer de vraiment, maintenant qu'on peut le faire, maintenant que dans les bibliothèques il y a du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on peut construire autour du jeu vidéo, comment on peut avoir des réflexions pertinent, des projets intéressants, des choses comme ça. Donc avec des exemples très concrets, du coup la première partie c'est la programmation ordinaire, par comparaison à la programmation extraordinaire que seront les festivals de jeux vidéo qui seront la deuxième partie. Alors juste avant, je voulais simplement dire que Nicolas Barret ne pourra pas venir, il a des problèmes de santé. Alors j'ai ramené le livre, la Bible sans doute du jeu vidéo en bibliothèque, et Nicolas Barret qui évidemment dans ce livre sera un petit peu avec nous pour cette première partie. Et je laisse immédiatement la parole à Théo.
Bonjour. Donc, je travaille à la Gaîté Lyrique. Je suis notamment documentaliste et médiateur multimédia et je m'occupe plus spécifiquement de l'espace jeux vidéo. Pour faire une introduction assez rapide, l'espace jeux vidéo a ouvert en même temps que la Gaîté Lyrique. Donc, c'est un espace plutôt d'exposition, on va dire, de jeux vidéo, puisqu'il y a 6 jeux en permanence présentés qui vont changer toutes les 2 à 3 semaines, et le public ne peut pas choisir à quoi il joue. Ce sont vraiment des sélections thématiques, on suit les mêmes thèmes que la programmation de la Gaîté Lyrique. Donc, dans le cadre d'une exposition, on va avoir exactement les mêmes thématiques, et hors exposition, hors temps fort, on va faire des thématiques plus libres, mais j'insiste sur le fait que le public ne peut pas choisir à quoi il joue. Donc c'est un espace qui est en accès libre, ouvert toute l'année, excepté pendant la période estivale, vraiment au cœur de l'été où on ferme, mais ça se situe au sein du centre de ressources de la Gaîté Lyrique. On considère le jeu vidéo vraiment à part entière comme une ressource, ce qui fait qu'il peut rentrer dans notre plan de classement, tout comme les livres et les applications sur tablette. Pour faire très court, on se base vraiment surtout sur une sélection de jeux vidéo indépendants. D'une part pour attirer du public avec des jeux qu'ils a priori ne possèdent pas chez eux. Quand on pose la question, c'est vrai que généralement surtout le jeune public reconnaît qu'il ne se déplacerait pas pour jouer à la même chose qu'à la maison. Et d'autre part parce que aussi on a un public qui n'est pas que jeune, et on a un public très exigeant de centres culturels qui souvent cherche à être appelé visuellement de très loin avant même de venir toucher à une manette. On a beaucoup de gens qui ne jouent pas, il faut les attirer un petit peu et leur donner envie de se poser. Donc l'espace jeux vidéo est vraiment central dans la médiathèque et ça nous permet notamment d'être un outil de médiation assez central. On l'utilise énormément. On a 3 ateliers réguliers à la Gaîté Lyrique. On en a un qui a lieu tous les jeudis après-midi, qui s'appelle Game Holder et qui se tient depuis à peu près la rentrée scolaire 2011, qui est à destination d'un public adulte éloigné du jeu vidéo. Donc ce ne sont pas forcément des seniors, mais a priori c'est ouvert à toute personne qui ne connaît pas l'univers du jeu vidéo et qui a envie de le découvrir. Ça a vraiment commencé comme un atelier de découverte pour personnes âgées. On s'est rendu compte très très vite qu'en fait il y a beaucoup de gens qui venaient par intérêt personnel. Pas pour partager avec des enfants ou des petits-enfants, mais vraiment pour découvrir un média dont ils entendent beaucoup parler. Et on a un public d'environ une douzaine de personnes qui vient toutes les semaines. C'est une inscription à l'année avec une progression vraiment pas pédagogique, puisqu'on n'apprend pas à jouer. C'est vraiment un atelier de découverte du jeu vidéo. Il y a une prise en main du matériel qui a lieu évidemment pendant quelques semaines, et après au bout d'un moment, c'est vraiment, elles reviennent plutôt pour pour découvrir tout ce qui se fait en jeu vidéo et bien se rendre compte que 90%, et encore je suis gentil, de la production de jeux vidéo ne correspond pas du tout à ce qu'elle voit la plupart du temps dans la presse généraliste, dans des bandes annonces ou des articles sur Internet. Donc ça, c'est un très bon point d'entrée pour nous, une programmation pour adultes. Ça vient d'un souci qu'on avait à l'ouverture de la Gaîté Lyrique, d'une programmation d'action culturelle surtout destinée à un public jeune, et vraiment la volonté de notre directrice des publics à l'époque d'orienter un petit peu d'action à destination des adultes. C'est un atelier qui marche toujours bien. Les participantes, je dis les participantes puisqu'il n'y a que des femmes qui viennent, c'est pas une volonté mais c'est un fait. On aimerait bien que ce soit un peu mixte, mais les hommes viennent et repartent aussi secs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Me demandez pas pourquoi. On en a eu un la semaine dernière qui n'est jamais revenu. Voilà. On ne sait pas. Ça, c'est pour la partie adulte. Pour la partie jeune public, parce qu'on le fait toujours évidemment. Dans le cadre de la réforme du temps scolaire, on reçoit des enfants en atelier tous les mardis après-midi, dans le cadre des TAP, les temps d'activité périscolaire. Ce sont des enfants d'une école, d'un centre de loisirs plutôt à proximité de la Gaîté Lyrique, et eux viennent plutôt dans une démarche de, on va dire, autant pour Game Holder, faut vraiment rentrer dans le jeu vidéo, autant là, on essaye de les en sortir un petit peu de la pratique. On sait qu'ils jouent. Voilà, on n'a pas besoin de les faire jouer, donc ils jouent vraiment très très peu. L'atelier est surtout basé sur une analyse critique. On essaye de faire en sorte de développer leur esprit critique, de les faire parler surtout, puisque ça c'est vraiment très compliqué. Et on prévoit, en fait, on a des grandes fiches avec le titre du jeu, une image, et on leur demande leur avis sur le gameplay, sur les graphismes, ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, et on leur demande de nous donner un verdict final, vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu en tout. Alors là, donc ça fait 2 semaines qu'on a commencé pour cette année, je vous fais une année type avec eux, on va passer 4 semaines à avoir comme réponse « c'est bien » ou « c'est nul ». Voilà. Donc très très vite, ça on l'a interdit. On a dit, voilà, vous pouvez dire c'est nul, mais il faut m'expliquer pourquoi. Voilà. C'est la seule condition. Ça met vraiment un petit moment à s'installer, mais au bout d'un moment, très honnêtement, les enfants sont assez friands de donner leur avis. C'est plutôt assez rare pour eux de pouvoir dire exactement ce qu'ils pensent de quelque chose qu'on leur montre. Et de toute façon, je les fais sortir de leur zone de confort, puisque les jeux que je leur présente, généralement, ils n'y ont jamais joué, ils ne les connaissent même pas. Ils sont très 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 orientés sur ce à quoi tous leurs camarades jouent, Fortnite et compagnie, et là ils ne les verront jamais. Donc c'est vraiment les faire sortir de leur zone de confort. Et on va avoir un troisième atelier régulier qui a lieu celui-là pendant les vacances scolaires, qui s'appelle très simplement Jouer en famille, on n'a jamais trouvé mieux, et qui est tout simplement un atelier de jeu en famille. C'est la seule condition, les familles qui s'inscrivent doivent jouer ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas des parents qui accompagnent leurs enfants, ce sont vraiment des parents et des enfants, des grands-parents, des oncles et tantes, qui viennent jouer avec les enfants. On propose une sélection de jeux de société, d'applications sur tablette et de jeux vidéo, et qui sont tout publics et qui ne se jouent pas forcément à plusieurs, mais qui en tout cas nécessiteront une coopération. On leur introduit vraiment le propos en leur disant que les adultes et les enfants ont vraiment 2 façons très très particulières d'aborder un jeu vidéo, spécifiquement un jeu vidéo, parce que ça nous concerne, mais un peu tout et n'importe quoi. Les enfants vont être beaucoup plus dans l'intuition, on va leur coller une manette dans les mains et ils vont tout essayer jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui marche. C'est toujours comme ça, les parents sont souvent sidérés de voir ça, pendant que les parents, eux, vont être beaucoup plus dans la déduction et eux, ils ont plutôt envie qu'on leur apprenne avant et ensuite ils vont reproduire. Donc, l'intérêt de cet atelier, c'est vraiment qu'ils réunissent ces deux approches et qu'ils réussissent à surmonter ensemble un jeu qui leur est proposé. Ça met un petit peu de temps à s'installer, mais très très rapidement, ils voient que surtout le jeu vidéo n'est pas soit un média que pour les enfants ou qu'il n'y a pas énormément de titres qui sont que pour les adultes parce qu'ils sont trop violents. On leur montre une énorme production de jeux qui est tout public et qui n'a pas vraiment de limite d'âge. Évidemment, ça existe, mais il y en a aussi énormément pour lesquels ça ne se prête pas du tout. Donc ça, c'est un atelier qui marche assez bien. Il n'a lieu que pendant les vacances scolaires, puisque c'est le seul moment où on arrive à réunir les deux publics. Mais par contre, on a vraiment toute l'année également la possibilité d'accueillir des groupes scolaires ou du champ social sur des programmations faites sur mesure. Là, on va plutôt avoir des demandes entrantes et on va voir si on les traite, si on a les moyens de les traiter. Généralement, oui, puisque ça porte souvent sur les métiers du jeu vidéo, sur comment on fabrique un jeu, sur le journalisme et le jeu vidéo. Donc, on va avoir des enseignants qui ont leur spécialité. On a déjà eu des enseignants en mathématiques. On a fait des sélections de jeux vidéo qui utilisent vraiment des principes mathématiques et ça se voit. On a eu des enseignants en histoire qui voulaient traiter la société médiévale à travers le jeu vidéo. Enfin, voilà. Tout est possible, a priori. Et surtout, grâce à notre fonds de jeux vidéo, puisque c'est un fonds qui s'est construit au fil du temps et qui continue, et qui se construit de façon plutôt libre de notre part, puisque la Gaîté Lyrique n'est pas une institution municipale. C'est une délégation de service public. Donc c'est une société privée qui gère le lieu, mis à disposition par la ville de Paris. Ce qui fait que, en fait, il n'y a que moi qui choisis les jeux. Je n'ai pas besoin de faire valider des listes ou quoi que ce soit. Et donc ça va vraiment très très vite. Ça me simplifie énormément la tâche. Je peux choisir très exactement quel jeu je veux présenter à n'importe quel moment et l'acheter dans la semaine. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ce qui fait que du coup, on a un fonds d'à peu près 1000 jeux dans lequel on peut piocher très régulièrement pour satisfaire nos besoins. Voilà. Plus que dans les temps. Après, on a une proposition depuis cette année d'atelier donc dans un programme qu'on a appelé Super Bidouille, qui est là un peu plus générique à la Gaîté Lyrique et dans lequel on va faire intervenir plutôt des artistes ou juste des professionnels de leur milieu. Donc là, actuellement, tous ne se prêtent pas vraiment aux propos de cette journée. Mais voilà, on va avoir un intervenant qui vient présenter aux enfants du matériel pour le DJing. Mais on a voilà, actuellement un intervenant à qui on fait appel depuis très longtemps, qui s'appelle Julien Levesque, qui va lui proposer de la création un petit peu comme du code créatif, en fait. Il va faire une initiation au HTML et il va créer avec les enfants des petites animations. Et donc ça, c'est un programme qui va évoluer au fil du temps et on ne s'interdit pas du tout de faire appel à des professionnels du jeu vidéo. Voilà.
Merci beaucoup Théo. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait on va garder le moment d'échange pour échanger avec vous. Donc là, on va simplement passer à la façon suivante. Moi, j'ai juste relevé deux petits points que je vais dire comme ça, histoire de jeter des idées. Notez vos questions, préparez-vous à la discussion. Du coup, l'idée, c'est d'échanger avec vous par la suite. Moi, j'ai noté deux éléments qui m'intéressent. Ben, on est en plein milieu de Prestart et du coup, il y a deux choses. Il y a d'une part ce que tu dis sur la transversalité des publics. Nous, notre service s'appelle Nouvelle Génération. Les publics qu'on accueille. De nouveau, ils n'ont sans doute que le nom parce que finalement, c'est des gens qui sont de plus en plus âgés. Et il y a un public aujourd'hui qui est très divers sur le jeu vidéo. Et l'idée de les faire se rencontrer est une chose qui me paraît intéressante. Et le deuxième truc, c'est que je disais, c'était un peu la partie sur la programmation ordinaire. Mais je crois que la notion d'extraordinaire a beaucoup de sens. Là, en ce moment, dans Prestart, et vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, en fait, on a une quinzaine de jeux des PlayStation où on met des sélections de jeux plutôt indépendants et du coup, des jeux que les gens connaissent pas forcément trop. Mais il y a surtout trois bornes d'arcade. Et ça cartonne. Et on en est presque à se dire qu'on aurait mieux fait de mettre 50 bornes d'arcade pour faire exploser nos statistiques de public. Et du coup, il y a cette question d'extraordinaire qui me paraît importante. Et le troisième point qui fait une excellente transition, outre peut-être l'élément sur les titres, trouver des titres pour les événements dans le jeu vidéo, c'est difficile. Et si on veut éviter l'anglais, c'est d'autant plus difficile. Et donc, l'élément qui peut faire une bonne transition, c'est que tu parlais d'éducation à l'image, d'utiliser en fait le jeu vidéo comme un support pour apporter aussi d'autres choses, d'autres réflexions sur les images, sur la façon de s'exprimer. Et ça fait une excellente transition avec Nicolas.
Alors, moi, c'est Julien. Et en fait, je suis désolé, je vais casser ta vibe, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout commencer par parler d'éducation. Parce que l'éducation, c'est cool, mais le jeu vidéo, des fois, c'est juste fun. Il n'y a pas besoin de se mettre sur un truc d'éducation. Après, je bosse aujourd'hui pour Sorbonne Université, mais je vais commencer par vous raconter des histoires autour de la bibliothèque Louise Michel, qui est dans le 20e et dans laquelle j'ai bossé à peu près 10 ans. Et dans laquelle on a pu, dès l'ouverture, avoir une proposition de jeu vidéo. Je vais essayer de vous raconter ça risque d'être un peu décousu, mais au fur et à mesure des choses qui nous sont arrivées sur le jeu vidéo à Louise Michel, voir ce qu'on a essayé de construire, là où on s'est planté, là où ça a marché, et la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait un peu moins d'un an maintenant que j'ai quitté Louise Michel pour passer du côté obscur de la force.
Mais malgré tout, ça reste ma bibliothèque de cœur. Donc je suis très au fait de ce qu'il continue à faire. Donc j'ai essayé de vous raconter ça le plus brièvement possible. Je pense que je peux parler à peu près 3 heures de Louise Michel sans rien. Et en fait, cette histoire commence à la Gaîté Lyrique. Ça commence en effet à la Gaîté Lyrique. En fait, ça commence comme une blague, le jeu vidéo à Louise Michel. Pendant la préfiguration de la bibliothèque, on voyait le début de l'essor du jeu vidéo dans les bibliothèques et de nouveaux services qui ouvraient un peu partout. Et un jour, on est tombé sur une news d'une toute petite bibliothèque des Ardennes, hyper chouette et tout ça, qui ouvrait avec un service de jeux vidéo. Et nous, on trouvait ça rigolo qu'à la ville de Paris, et son immense réseau, et son immense capacité de financer des projets, ce ne soit pas encore le cas. Donc on a envoyé un petit mail gentil à notre direction, en disant « Hey, regardez, vous avez vu, dans les Ardennes, ils font ça, dans une petite bibliothèque de 100 mètres carrés. Et nous, à la ville de Paris, on a 70 bibliothèques et il n'y a rien. Ça vous dit, on fait un truc ?» Et ils nous ont dit « D'accord, vous avez 5000 balles. » Ok, on a été un peu pris de court. Parce que c'était à peu près 3 semaines avant l'ouverture de la bibliothèque. Donc on a été voir les copains de la Gaîté Lyrique, Oscar et Théo. Je ne sais plus si tu étais là dès le début. Enfin, je ne sais plus si on s'était vu. Ouais. Enfin bon, peu importe. En tout cas, on a un peu discuté. Et on a pris une direction qui était la direction que je vais qualifier de food truck au départ. C'est-à-dire qu'on a dit, ok, on a 5000 euros, on va tout dépenser. On va acheter tout et n'importe quoi. Et on se donne une période de test. Et on teste tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Donc, sans forcément de rendez-vous très régulier, du jeu vidéo plutôt à destination des jeunes ados, jeunes adultes. On avait quelques ambitions, mais qu'on n'a pas mis en œuvre tout de suite. Beaucoup de jeux vidéo familial. Et l'idée, c'était qu'on avait des rendez-vous le mercredi après-midi, typiquement parce que c'est le truc facile, le samedi après-midi, parce que pareil, beaucoup de public et tout ça. Et puis, on sortait aussi les consoles au moment où ça nous semblait opportun. Dans des soirées un peu chargées, dans des moments où on sentait qu'il y avait un besoin, dans des moments plus calmes aussi, où on s'apercevait qu'il y avait moins de public et que du coup on pouvait essayer de proposer quelque chose pour distraire notre public, pour construire quelque chose avec eux. Et donc, dès le départ, il y a des choses qui ont marché. Typiquement, le jeu vidéo avec nos ados, ça marchait bien. Avec nos discussions avec la Gaîté Lyrique, on était parti un peu sur l'idée de dire « il faut qu'on ait une proposition ». On va pas faire du FIFA toute la journée et donc on va essayer de porter de la qualité, mais ça s'est planté lamentablement parce que en fait c'est parce que les ados de notre quartier cherchaient, et donc on a changé notre fusil d'épaule assez rapidement en disant ok, vous avez envie de jouer à quoi, eh ben on va jouer à ça. Vous avez envie de jouer à FIFA, on joue à FIFA. Vous avez envie de jouer à Just Dance, on va jouer à Just Dance. Mais dès le départ, ce qui a été important pour nous, c'est l'on va aussi se servir du jeu vidéo comme d'une façon de créer du lien avec vous. Est-ce que je me sers souvent dans les discussions autour du jeu d'un mémoire de conservateur de il y a quelques années qui date un peu mais qui est assez intéressant, qui était sur le jeu tout court en bibliothèque de Hélène Dress, et dans une de ses parties elle parle d'un truc qui est vachement intéressant, qui sont les 3 niveaux d'utilisation du jeu et du coup du jeu vidéo en bibliothèque. Le premier niveau qu'elle définit, c'est un niveau très marketing, c'est genre le côté produit d'appel qu'on utilise tous, et il ne faut pas trop en avoir honte, c'est bien. On a le droit de faire semblant d'être plus cool qu'on ne l'est. Et parfois, ça contribue à faire de nous des gens plus cool aussi. Et donc, c'est cool. Mais il y a un deuxième niveau, qui est le côté animation à pas cher. Ça aussi, on le fait. Utiliser le jeu ou le jeu vidéo pour faire de l'animation sans avoir besoin d'avoir quelque chose de très complexe à mettre en place, sans avoir besoin d'engager du personnel extérieur, sans avoir besoin... Voilà, on peut faire de la souplesse. Et après, elle parle d'un troisième niveau qui est la valorisation de la culture du jeu, de la culture ludique en tant que telle et son inscription dans l'ADN de la bibliothèque. Donc là, nous, très clairement, au début de la bibliothèque Louise Michel, dans les premières années, on était vraiment à fond sur le côté marketing et animation à pas cher. Voilà, le jeu vidéo, c'était ça. Et c'était pas si mal, en vrai. Au bout de 2 ans, on s'est quand même posé la question de se dire « bon, maintenant, il faut qu'on structure un peu, on est devenu un peu grand, et donc il faut qu'on arrive à sortir de cet objectif food truck pour arriver sur un truc un peu plus structuré et un peu plus propre. » Et donc, on s'est mis en place un certain nombre de rendez-vous. Ces rendez-vous, ils avaient une structure assez simple. Le mercredi, 1 fois sur 2, jeux vidéo avec les ados, sur une proposition de notre part ou sur une proposition de leur part, avec des alternances. avec l'idée aussi de commencer à favoriser une participation des publics, genre un ado qui vient et qui dit hey, j'ai découvert ce super jeu, j'aimerais bien le jouer à la bibliothèque. Et on lui dit, ok, mais c'est toi qui anime la séance. C'est toi qui montre comment on joue, c'est toi qui montre les trucs intéressants. Et puis tu fais jouer les gens. Et donc, voilà, dans l'idée de responsabiliser. C'était les départs aussi pour nous du travail en profondeur sur la participation des publics, qui continue encore aujourd'hui et qui sont une source de joie ininterrompue pour les bibliothécaires de Louise Michel. Donc ça a plutôt bien marché. En fait, en vrai, dès qu'on fait une proposition simple, ça marche bien. Donc tous les 15 jours, des jeux vidéo pour les pré-ados ados. Il y avait une proposition le samedi pour un peu dans le même esprit que à la Gaîté Lyrique, c'était jeux vidéo parents enfants avec la même limite. Tu peux venir jouer seulement si tu arrives à traîner un de tes parents avec toi. Et là encore, l'idée c'est de pouvoir déléguer l'animation de cette session aux enfants, puisque bah, les enfants s'approprient le jeu de façon plus marrante. Ça m'a fait penser à un truc, je ne sais pas si vous connaissez, un truc qui s'appelle le Spaghetti Challenge. Non. C'est un truc un peu marrant. Le principe, c'est qu'on file une vingtaine de spaghettis, 5 chamallows, à un groupe de personnes, et on leur demande de réaliser la tour la plus haute. C'est un truc vaguement de management, mais en fait, on s'en fout, parce que c'est juste assez rigolo à faire. Et le mec qui a créé ce truc-là, il en a fait des centaines d'ateliers comme ça, et il en a tiré des statistiques, et c'est hyper intéressant de l'écouter. Il y a une conf qui est trouvable en ligne où il parle de ça en 10 minutes. Et du coup, il a comparé des enfants, des architectes, des commerciaux d'entreprise, et de voir qui y arrive et qui n'y arrive pas. Donc, spoiler d'avance, les architectes sont les meilleurs à ce jeu-là. Enfin, bon, en même temps, on s'en doutait un peu. Mais les enfants ont une technique, ils s'en sortent vraiment bien, et ils ont une technique hyper intéressante qui est la technique de l'itération. C'est-à-dire qu'ils vont faire 50 prototypes dans le quart d'heure qui leur est attribué, et jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc qui marche bien. Alors que, là aussi, spoiler, les commerciaux sont hyper nuls parce qu'ils n'arrivent pas à travailler les uns avec les autres. Bon, fin de la parenthèse, où on dit du mal des commerciaux. Donc du coup, les jeux vidéo parents-enfants, ça a plutôt bien fonctionné, mais c'est très, et ça continue encore aujourd'hui, ça dépend vraiment des moments de l'année, des personnes qu'on aura pu choper. En tout cas, la com, elle passe complètement à côté. Et donc du coup, c'est juste sur de la com individuelle et orale que ça peut attirer les gens. Sur le principe, on avait aussi envie de traiter le jeu vidéo avec les adultes, et ça assez rapidement. Donc on a voulu lancer des soirées jeux vidéo pour les adultes, des apéros jeux vidéo, parce qu'à Louise Michel, il n'y a rien qui se fait sans à manger et à boire, parce que sinon c'est chiant. Donc là, le principe, c'est que t'as des bières, t'as des chips et t'as du jeu vidéo, et tu fais une soirée. Au début, on faisait ça de thématique, donc en mode le polar dans le jeu vidéo, le western dans le jeu vidéo, une soirée Minecraft, je sais plus. On a fait quelques soirées comme ça, et ça a été un lamentable échec. C'est-à-dire qu'on s'est quand même donné un an et demi pour essayer des trucs. Mais à part nos copains bibliothécaires, il n'y avait pas grand monde à ces soirées de vrai public. Et donc voilà, ça on en a tiré notre parti. Au bout d'un moment, on a dit bon, ça y est, ça fait un an et demi, ça fait 6 ou 7 séances qu'on fait ça, ça marche pas, on arrête. Et donc ça nous amène à la dernière phase, la troisième phase du jeu vidéo à Louise Michel, ce qui est pas, sans doute pas la dernière parce qu'il y aura d'autres améliorations plus tard, mais qui est une phase où justement on a gardé les trucs qui fonctionnent. Les jeux vidéo avec les pré-ados, avec les ados, avec les familles. Et pour les adultes, il y a eu un changement de cap, qui est un changement de cap assez général pour l'inscrire dans la politique de la bibliothèque. Et si j'utilise politique, c'est vraiment un truc important, qui va se faire par des associations, des partenariats avec des acteurs du jeu vidéo, mais pas des acteurs neutres. Je parlerai après des boîtes parce qu'il y a aussi des partenariats avec des entreprises, mais là, on parle d'un partenariat plus associatif. Avec deux assos de jeux vidéo. La première, c'est le RIJV, le Rassemblement Inclusif dans le jeu vidéo, ou pour l'inclusion dans le jeu vidéo, je ne sais plus exactement, qui bosse donc sur la visibilisation des minorités au sein du monde professionnel des jeux vidéo, et qu'on a rencontré à l'occasion d'un... On avait fait une soirée sur les femmes et le jeu vidéo, les femmes dans le jeu vidéo, on avait invité plein de développeuses, de productrices, enfin de gens qui bossaient dans le jeu vidéo, et ça avait été une chouette soirée. Et à partir de là, on a rencontré cet asso-là. Et du coup, l'idée, c'est que depuis 3 ans maintenant, ils ont un peu une sorte de salle ouverte à la bibliothèque. Et donc, ils organisent des programmes de formation qui sont ouverts à tous les publics, le leur et le nôtre. et qui a lieu le samedi après-midi. Et l'idée, c'est de pouvoir balayer à peu près tous les spectres de la création de jeux vidéo. Et ça, ça marche hyper bien. D'abord, uniquement avec le public du RIJV. Et puis, petit à petit, on a eu des gens qui sont de notre public, des grands ados, des jeunes adultes, qui sont greffés avec ce truc-là et qui sont mis à s'intéresser à toutes ces thématiques et de game design, et de sound design, et de création graphique, etc. De plein de choses. Et ça nous a amené au deuxième partenariat, qui est lui aussi extrêmement satisfaisant, avec une asso, je ne sais plus s'ils ont un statut d'asso, on s'en fout, qui s'appelle Game Impact, et qui travaille sur les questions sociétales vues par le prisme du jeu vidéo. Donc genre le jeu vidéo et l'écologie, les conditions de travail dans le jeu vidéo, tout plein de trucs. Et donc avec eux, pareil depuis 2 ans et demi maintenant, 3 ans peut-être, il y a une soirée mensuelle de conférences, qui peut être aussi démo, qui peut être aussi hyper interactive, mais qui permet de mélanger des professionnels du jeu vidéo avec des publics. Et voilà. Et ça fait des soirées qui à chaque fois rassemblent entre 50 et 80 personnes, tous les mois. Louise Michel, c'est une petite bibliothèque, hein, une soirée à 80 personnes, c'est cool. Ça fait vraiment du chiffre un peu classe. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a pris le parti d'assumer un certain nombre de choses. D'assumer que la bibliothèque n'était pas non plus un lieu à 100% neutre. Je lance les pistes de débat pour plus tard. Qu'elle avait un parti pris. Et que du coup, on pouvait défendre un aspect vraiment inclusif dans le jeu vidéo, un aspect politique du jeu vidéo, c'est-à-dire que la question des soirées de Game Impact, c'est pas pour défendre un modèle ultra-industriel du jeu vidéo. On est sur autre chose. Quand on parle des conditions de travail du jeu vidéo, les seules personnes à parler, c'est les gens du syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Il n'y a pas de représentant des RH pour apporter un point de vue différent. Non, là, le partenariat, il va dans ce sens-là, parce que ça correspond aux valeurs de la bibliothèque. On ne s'appelle pas non plus Louise Michel pour rien. Tu vois. Et donc voilà, donc là, on est arrivé à une sorte d'alignement entre la politique générale de la bibliothèque, qui est très axée sur l'inclusion des publics, sur la participation des publics, sur le fait d'assumer un certain point de vue, sur le fait de faire les choses en lien avec son public, et puis d'utiliser le jeu vidéo comme n'importe quel autre service ou ressource de la bibliothèque dans ce sens-là. Quand on constitue les collections, on a la même chose. Quand on parle on a fait plein de trucs avec des associations d'aide aux migrants, par exemple, où on a aussi utilisé le jeu vidéo. Je me souviens d'une asso qui fait des cours de scolaires de rattrapage, en fait, pour des jeunes mineurs migrants, pour après pouvoir les remettre dans le système éducatif classique. Et donc eux, ils viennent 2 fois par semaine le matin. Et au bout d'un moment, on a pu utiliser avec eux, en discutant et en voyant un peu ce que leurs enseignants bénévoles leur faisaient, utiliser le jeu vidéo aussi pour des moments un peu à part. Pas forcément pour apprendre des trucs, mais pour apporter des moments un peu plus fun dans une trajectoire qui ne l'est pas des masses. Donc voilà pour la partie Louise Michel. Maintenant, donc, je suis passé du côté obscur, c'est-à-dire du côté Sorbonne Université. Je travaille au département formation et innovation pédagogique. Le principe, c'est que du coup, maintenant, j'utilise le jeu pour les trucs que je détestais avant, c'est-à-dire le côté serious game et apprendre des trucs à des gens. Mais au final, on s'en sort pas trop mal sans trop salir notre âme. Et il y a plusieurs projets qui sont un peu cool et qu'on utilise pour ça. Je vais juste vous mettre 2-3 images parce que... Pour le game design, on va en reparler. C'est un peu pompeux, mais voilà, c'est l'idée. Donc il y a plusieurs propositions. Je vais juste vous remettre n'importe quel slide, on s'en fout. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites avant que j'arrive en partie, mais je vais assumer le fait que je fais partie de ce département et que du coup j'en prends aussi tous les crédits. Il y a une proposition initiale qui était l'idée de faire un vrai jeu vidéo qui permette d'aborder toutes les notions qu'on aborde en TD. Donc on fait des TD de recherche documentaire. Tout est dit, quoi. Enfin, voilà, c'est pas hyper sexy. Et donc on doit lutter aussi pour que les étudiants s'intéressent un peu à ce qu'on leur raconte. On appelle ça les compétences informationnelles. Je pense qu'il n'y a rien de moins sexy sur Terre que ce terme de compétence informationnelle. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir offrir quelque chose qui soit intéressant. L'université, elle a des moyens que les bibliothèques municipales n'ont pas, notamment la capacité à aller chercher des financements un peu exceptionnels et de pouvoir financer des projets un peu d'envergure. C'est le cas avec donc L-Link, qui est le jeu qui est sorti l'année dernière maintenant en version finale, qui s'est fait sur des crédits spécifiques. Je ne veux pas vous embêter avec les trucs comme ça parce que ce n'est pas intéressant, mais qui ont permis aussi le travail avec un vrai game designer, avec des vrais développeurs, avec des gens dont c'est le métier de travailler là-dessus, et que ce soit vraiment un travail ensemble. C'est-à-dire, on n'a pas fait une commande à une boîte pour dire on veut un jeu vidéo sur ça, allez-y. Non, là on a embauché les gens qui maintenant continuent à travailler à l'université au sein d'un service dédié pour créer des jeux vidéo pédagogiques universitaires. Ça a l'air chiant, mais en fait, ils font des trucs chouettes. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir créer un jeu qu'on puisse utiliser en TD, mais qui puisse aussi se jouer à l'extérieur, qui puisse avoir un public d'étudiants, mais qui puisse aussi intéresser le grand public, ce qui n'est pas hyper, hyper vendeur sur le principe. Mais voilà, un jeu qui ressemble, en gros, à un... Est-ce que vous connaissez Ace Attorney ? Ouais. Et bien, ça ressemble un peu à ça. Donc, des phases narratives dans lesquelles on va avoir une histoire qui se développe, qui se déploie, une histoire un peu de SF à la cool. Et puis après, des phases de gameplay qui vont mobiliser les compétences qu'on veut développer chez nos étudiants, c'est-à-dire le fait de relier des mots-clés entre eux, le fait d'évaluer la fiabilité des trucs. Voilà, on parle beaucoup de fake news depuis quelques temps, mais l'idée est là, c'est de pouvoir donner des armes là-dessus à nos étudiants pour élaborer tout ça. Et puis ouais, avoir une vraie palette graphique qui soit intéressante, un vrai car design avec des vrais personnages et une vraie écriture, et d'avoir quelque chose qui soit à peu près propre. Donc ça, on l'utilise. Donc le jeu est disponible gratos sous une licence libre parce que c'est normal que d'utiliser l'argent public pour ça. Donc ça, vous pouvez le télécharger et le tester, et après nous on l'utilise en TD avec nos étudiants sur des petites phases ou en fin de TD ou sur des moments sur des TD complets, etc. Mais on va utiliser ce truc là-dedans. Et après, on a développé d'autres outils. Hellscape, c'est l'escape game de la bibliothèque qui va se faire dans le même univers et qui va essayer de travailler sur les mêmes compétences mais avec les mécaniques de l'escape game. Donc voilà, donc plein de cadenas à ouvrir, plein de trucs à déverrouiller et trouver des fake news qu'on doit invalider. En gros, l'idée, pour faire le fil rouge avec le côté Louise Michel, c'est qu'on part de la même chose, c'est-à-dire au début, quelque chose de très spontané et un peu foutraque, en disant « Hey, on a l'opportunité de choper 200 000 euros pour développer un jeu vidéo, faisons-le. » Et après, on installe quelque chose qui est de l'ordre vraiment du mode de fonctionnement, où on va mettre du ludique un peu partout pour pouvoir développer d'autres façons de remplir nos missions. Et voilà, c'était un peu le même principe avec Louise Michel. Comment est-ce qu'on mixe les missions traditionnelles avec le jeu vidéo et comment est-ce qu'on fait en sorte que, plutôt que d'être juste juxtaposé ou utilisé comme un accessoire, ce soit vraiment le cœur du truc. Voilà.
Super, merci. On a presque pas dépassé, franchement. Félicitations. Merci. Du coup, je pointe encore une fois deux, trois éléments qui m'ont pour jeter aussi dans le débat la dimension de l'expérimentation, mais en même temps de la structuration de l'expérimentation, c'est-à-dire de passer effectivement, on a essayé, les bibliothèques se sont beaucoup mues sur les jeux vidéo, je pense, dans une dimension où on a eu très peur d'être dépassé et d'être ringard, et à un moment donné, alors on s'est jeté. Sur beaucoup de choses, on s'est jeté sur la réalité virtuelle sans finalement savoir qu'est-ce qu'on allait proposer. Ça, je pense que sur la réalité virtuelle, il y a un vrai sujet.
Ouais, on a acheté un casque à Louise Michel, je pense qu'il a servi trois fois. Et voilà.
Ouais, et je pense que beaucoup de bibliothèques, quand ils se disent on va faire du jeu vidéo, on va acheter les dernières technologies, méfiez-vous, ça ne marche pas. Nous aussi, à la BPI, on a dépensé beaucoup d'argent pour des casques de réalité virtuelle. On aurait mieux fait d'acheter des bandes d'arcade, très clairement. Donc, et il y a effectivement, du coup, mais en même temps, cette phase d'expérimentation, on est sur des choses qui sont très récentes, et pour le coup, les bibliothèques ne sont pas en retard, on est plutôt en avance. Les particuliers n'ont pas de casque de réalité virtuelle et n'en achèteront pas sans doute dans les deux ou trois prochaines années, donc on est très en avance. Donc il y a une dimension d'expérimentation, mais il y a effectivement aussi cette dimension où on est là depuis suffisamment longtemps maintenant pour que ça puisse se structurer en politique. Et
la question de l'inclusion dans une vraie politique, est-ce que ça une politique culturelle quand on essaie de réfléchir à penser un programme à l'année ou dans des événements particuliers? C'est la question qu'on voulait soulever aujourd'hui, mais c'est aussi une inscription dans le projet d'établissement, et c'est pas encore forcément très facile dans tous les établissements de le faire valoir dans la politique de l'établissement. Et ce que tu disais sur la politique est intéressante. Effectivement, une politique, c'est faire des choix, et faire des choix, c'est prendre des décisions, que ça soit de ce qu'on valorise. Les bibliothèques, on a fait du jeu indépendant, ça paraît très légitime, mais c'est aussi un choix finalement, et c'est un choix politique. Et là, il y a une réflexion à avoir qui est une réflexion nécessairement polémique. Louise Michel a, sur ces positions-là, des positions qui sont très engagées, mais il y a aussi d'autres formes de positions à prendre. Et du coup, ça, c'est une question dont je suis sûr des gens auront envie de discuter. Un élément que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est ce que tu disais sur les plusieurs niveaux du jeu vidéo. Je pense qu'on a eu tendance, quand on a voulu légitimer le jeu vidéo en bibliothèque, à dire « Mais regardez, ça peut être un vrai produit culturel, il y a des jeux très poétiques, il y a des jeux très graphiques. » Dans les bibliothèques, on propose aussi des livres qui ne sont pas forcément très bons, on propose aussi des choses différentes, on a des magazines de bricolage. On pourrait très bien avoir un FIFA de divertissement, comme on a un magazine de bricolage, et avoir des propositions différentes à côté.
On a le droit d'avoir du Harlequin dans nos collections, c'est pas trop un souci. C'est pas un souci. On peut avoir du Harlequin dans nos collections. Ouais, ça le fait. Et ben donc on peut avoir du FIFA. Ce qu'on ne peut pas avoir par contre, c'est les jeux Ubisoft un peu sales, genre Poly fait de la danse et Poly fait du cheval et je me souviens plus tous ces trucs. Ça faut pas. Mais j'aime bien Ubisoft, hein, je les aime d'amour, mais voilà, ça il fallait pas faire.
Du coup, on va faire passer un micro, Marc sera là, et donc si vous voulez poser une question, allez-y, on se donne un petit moment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur.
Il y a juste un truc en fait que j'ai complètement zappé d'en parler, alors que c'est hyper important et ça m'y fait penser avec ton retour là. C'est le passage entre l'expérimentation et la structuration. Il se fait pas aussi en très peu de temps, et il se fait aussi avec de la formation dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au départ, je pense que c'est un peu pareil partout, c'est les 2-3 geeks de service qui vont porter un service jeu vidéo. Pour arriver à structurer les choses, il faut que ça puisse s'ouvrir. Il faut que une grande majorité de l'équipe puisse porter ces trucs-là, soit convaincue de la légitimité du truc et soit en capacité d'animer et se sente capable d'animer des choses qui ne sont pas forcément de leur univers personnel au départ. Et donc ça, nous, on est passé par cette phase-là. On a beaucoup formé notre équipe. En gros, on a passé beaucoup de réunions à jouer à des jeux ensemble. Beaucoup de formations, ce qu'on appelait les formations jeux vidéo pizza. Oui, on aime bien les pizzas, on aime bien manger, tout ça. Enfin, voilà. Où l'idée, c'est qu'on prenait une pause déjeuner plus étendue et qu'on discutait de jeux vidéo. On jouait à des jeux différents avec nos collègues, notamment avec ceux qui étaient le plus éloignés au départ du jeu vidéo, pour essayer de les sensibiliser, pour leur montrer des trucs. Et puis après, dans les aspects RH, c'est quand même assez cool de se mettre une mine à Street Fighter sur la pause de déjeuner pour régler les trucs en équipe. Mais voilà. Mais ça a contribué à faire en sorte que des collègues qui n'étaient pas hyper chauds au départ trouvent agréables ces moments parce qu'ils avaient les codes, parce qu'ils comprenaient l'enjeu et qu'ils prenaient un vrai plaisir à jouer avec les publics.
Très bel élément, évacuation des tensions dans les équipes sur Street Fighter. Je pense qu'il faut vendre ça à vos directeurs d'établissement, ça peut être une très bonne... Alors, est-ce qu'on a une question ou est-ce qu'il faut qu'on inaugure les questions depuis chez nous? Par là-bas.
Alors, qui était ?
Bonjour, je travaille dans une bibliothèque du 20e aussi, avec des collègues qui sont là. Et ma question, c'est, on est quelques-uns, enfin, c'est pas du tout moi qui ai initié, donc je rends l'honneur aux personnes qui ont initié dans le réseau, dans une autre bibliothèque, un escape game. La question, c'est, est-ce qu'on pourrait récupérer ou s'inspirer aussi de ce qui est fait à la Sorbonne, et comment? Voilà, c'est vraiment...
Je suis en train de tout Merci. Mettre, tout sera en licence Creative Commons, et on va balancer ça. On nettoie un peu parce que nos documents de boulot sont un peu crades, donc on nettoie un peu tout ça, on rend les choses plus simples. L'escape aujourd'hui, il est lié à une salle pédagogique dans laquelle on travaille, mais en fait en vrai il est plutôt transcriptible ailleurs sans trop de difficultés. On a développé un petit programme qui sert de compte à rebours, tout ça sera, tout sera en ligne. En BU, il y a des codes un peu différents, donc genre tous les trucs pédagogiques, ils sont sur une plateforme qui s'appelle Zenodo. Donc on mettra ça sur Zenodo parce que c'est BU, donc un peu obligatoire. Et on mettra aussi sur du vrai Internet à côté, sur des vrais trucs que les gens trouveront. Okay, merci.
Ouais. Là, cette dimension, je pense, de partage, ce qu'on essaie de construire les rencontres aujourd'hui, de montrer aussi que sur cette question-là, en tout cas maintenant, entre les bibliothèques universitaires, des bibliothèques départementales, des petites bibliothèques, des plus grandes bibliothèques, il y a des échanges. Il y a des tas de choses qui se font bien de tous les côtés et je pense qu'il y a cette nécessité aussi de pouvoir se rencontrer. Peut-être est-ce que vous, dans vos institutions, et peut-être à la Gaîté Lyrique aussi, qui est une institution un peu particulière, est-ce que vous avez des partenariats, même sur des projets justement plus annuels ou avec d'autres institutions culturelles publiques ?
On a surtout de l'accueil en fait, donc on a déjà accueilli des formations d'images en bibliothèque, on a eu un programme de formation déjà pendant un petit moment à la Gaîté Lyrique, et je pense qu'on l'a aussi un petit peu abandonné quand vraiment ça a commencé à se répandre beaucoup, le jeu vidéo en bibliothèque. On s'est dit que peut-être que c'était plus le moment de faire une introduction, ça pouvait se trouver ailleurs. Et après, à part ça, on propose vraiment des visites dans le centre de ressources. N'importe quel professionnel qui nous contacte peut venir et bénéficier d'une matinée quasiment pour présenter toutes nos activités autour de ça.
Je compléterai en pensant que c'est une dimension qui est très intéressante et ça rejoint ce que tu disais sur les questions des compétences. Il y a une réelle compétence aux jeux vidéo et il n'y a pas une compétence d'ensemble, je pense. Bon aux jeux vidéo, il y a plusieurs façons de jouer, il y a plusieurs jeux, il y a des choses qui sont très différentes. Moi, j'ai eu l'occasion de passer dans cette grande bibliothèque du 20e où il y a énormément de très beaux projets. Le 20e arrondissement pour la ville de Paris est un arrondissement très dynamique. Je pense qu'il y a sans doute aussi des échanges qu'on peut se faire entre bibliothèques. Dans le cadre de Prestart, la Canopée et Jérémy Flamand sont venus mercredi faire un atelier qui était un atelier que nous on n'aurait pas animé en langue des signes, des choses que nous on n'a pas la compétence de faire, nous on fait d'autres choses et du coup je pense que ces échanges là ça peut être des choses qui sont très constructives.
C'est hyper important d'avoir cet équilibre là parce qu'en fait personne crée des trucs qui viennent de nulle part, on s'inspire tous de ce qui se passe à gauche et à droite et donc la moindre des choses c'est de rendre à la collectivité ce qu'on a pris à la collectivité. Donc quand on s'est inspiré, on publie ses idées ou on publie les trucs qu'on fait, les retours d'expérience, voilà. Enfin, c'est vraiment inscrit aussi dans le projet d'établissement de la bibliothèque Louise Michel, cet aspect de communiquer autour de ce qu'on fait. Parce que justement, c'est intéressant pour tout le monde d'avoir des retours d'expérience, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui marchent, des trucs qui voilà. Donc faites pas des soirées jeux vidéo de merde sur les bases du polar sans faire une bonne communication. En même temps, vous le saviez déjà, mais voilà, c'est les messages qui sont importants.
Oui, bonjour, Agnès Demet, je viens de la région Occitanie. J'ai deux questions. Je voulais savoir si le jeu vidéo que vous avez développé, là, Airlink, c'est ça ?
Airlink.
Airlink, ouais. Est-ce qu'il a été fait en design d'expérience et co-conception ? Et ma deuxième question, c'est le moteur de jeu qui a été utilisé. Ouais. Est-ce qu'il est impactant par rapport à l'accessibilité sur les réseaux et sur les installations sur les PC ? Parce que j'ai des problèmes de ce genre. Voilà.
Alors, le jeu, il tourne sous Unity. Et il y a, donc c'est chiant. Mais bon, c'est des questions qu'on s'est posées peut-être un peu trop tardivement là-dessus. Il y a trois versions qui existent, une version sur PC, Mac et Linux. L'idée, ce serait de pouvoir aussi le développer avec une version vraiment propre à un navigateur web, qu'on puisse avoir quelque chose qui soit jouable sans installation. Mais effectivement, on retrouve les mêmes thématiques. Le développement du jeu a été relativement long, parce que ça fait 4 ans qu'ils ont commencé à travailler là-dessus. Et donc, du coup, il y a eu des prises de décision au début sur l'architecture et tout ça, qui, avec un peu de rétrospective, n'ont peut-être pas été les plus ergonomiques et les plus faciles là-dessus. Et ta première question, c'était sur... Ouais, il y a eu des playtests, plusieurs, à plein de phases différentes du développement du projet, avec les étudiants, pour voir un peu leur retour, pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Le jeu était très bavard au début, on a pu couper plein de trucs. Il est toujours assez bavard. Je pense que si on devait refaire de zéro aujourd'hui, on partirait avec une expérience qui serait très différente et on testerait d'autres choses. Mais voilà, il est ce qu'il est et puis voilà. Ça marche.
On s'éloigne jamais totalement des questions techniques dans le jeu vidéo, et c'est trop essentiel. Est-ce qu'on a une autre question
Moi, j'avais juste un truc à rebondir sur ce que tu disais à propos des compétences liées au jeu vidéo. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi de dédramatiser, et ça fait des années qu'on le dit, mais apprendre à jouer, c'est un truc important. Appréhender correctement l'univers du jeu vidéo, c'est un truc important. Mais après, pour le reste, pour l'utilisation du jeu vidéo en bibliothèque, eh, mais c'est notre travail de tous les jours, en fait. Hein. Accueillir du public, le mettre en relation avec des trucs, on sait faire ça. Hein. Enfin, c'est le cœur de notre métier. Donc, je pense qu'il faut arriver à se détendre sur cette question-là. On est tous en capacité, en étant bibliothécaire, en travaillant en bibliothèque, on a tous ce qu'il faut de base pour faire correctement la mise en relation entre un contenu et un public. Et ce contenu, ça peut être du jeu vidéo, c'est pas plus sale, c'est pas moins sale, c'est pas plus compliqué. C'est pareil, c'est juste qu'il faut dédramatiser au départ.
Pour rebondir sur cette question, effectivement, je pense que la médiation du jeu vidéo, c'est particulier, c'est sûr. C'est un objet qui nous répond quand on l'utilise. Hein. Mais effectivement, à part... je peux le voir dans les ateliers Game Holder, ce qui bloque le plus les personnes au début, c'est « je ne sais pas me servir de ça ». Voilà. C'est, en fait, je pense que si on était face à un atelier d'apprentissage d'utilisation d'un ordinateur, on aurait exactement les mêmes réactions au début. Les personnes ont peur du matériel, avant tout. Et ça, c'est très important de se dire, en fait, c'est un outil. Voilà, on apprend à servir vite fait de la manette, et après, on n'en parle plus. Et au bout de 3 séances, elles regardent même plus ce qu'elles sont en train de faire avec leurs mains. Elles peuvent se concentrer sur l'écran. Et je pense qu'effectivement, en tant que professionnel, c'est plutôt important de se dire c'est une compétence à apprendre, mais une fois que je l'ai, je peux juste m'en servir dans le cadre de mon travail. Personnellement, je ne joue pas du tout à l'extérieur de la Gaîté Lyrique. Voilà, c'est juste mon métier. Je ne suis pas joueur par ailleurs, un petit peu sur téléphone quand j'ai le temps, mais par ailleurs, je n'ai pas le temps quand je sors, donc voilà, je ne joue pas. Je n'ai jamais eu de console en grandissant, jamais eu d'ordinateur permettant de faire tourner des jeux en grandissant, donc je pense que ce n'est pas excluant, quoi. On n'est pas obligé d'être joueur à tout prix pour réussir à maîtriser la médiation du jeu vidéo.
Et moi, je compléterais même en me disant, je pense que ces difficultés techniques ou les appréhensions techniques sont pas seulement un effet générationnel. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les personnes les plus âgées qui ont des difficultés avec ça. Moi, j'étais assez frappé, on avait fait une étude à la bibliothèque de l'ENSIB, de se rendre compte que les tablettes n'étaient pas utilisées. Quand on faisait des études auprès d'étudiants de l'ENSIB en sciences de documentation, des gens de 25 ans, ils disaient « je ne sais pas me servir d'une tablette, donc je ne l'utilise pas ». Et nous, là, on voit après Start, il y a beaucoup de gens, ils regardent les ordinateurs et franchir le pas, on a peur de ne pas trouver les commandes, alors qu'il faut... bidouiller parce que ça se bidouille toujours. Donc je pense qu'il faut pas, et je pense que même les plus jeunes parfois ont des difficultés à comprendre, et en tout cas il faut les accompagner dans l'accès au dispositif qui est pas forcément évident même pour les plus jeunes. On a une question à droite.
Oui, une question et puis aussi un témoignage qui va un peu dans ce sens-là, alors qui un témoignage qui va reprendre aussi ce qui se passe, je pense, dans beaucoup de bibliothèques départementales, puisque moi je suis à la bibliothèque départementale du Cher à Bourges, et donc nous avons acquis des jeux, des consoles. Et hier, on a amené donc dans une petite bibliothèque à Sancerre une console PS4 et puis une mini NES à une équipe de bénévoles de bibliothèque qui ne sont pas du tout gameuses. Mais voilà, une des bénévoles voilà, est un peu plus jeune, peut-être, on va dire, que les bénévoles traditionnels qui tournent autour de 80 ans. Elle a qu'une quarantaine d'années. Donc elle a eu envie de se lancer. Et donc, du coup, c'est une vraie opportunité aussi, peut-être, de ne pas s'y connaître, pour faire participer le public, puisqu'elle est partie à la recherche, dans son public, de gens qui jouaient. De gamins qui venaient, qui jouaient, et donc elle les associe à son animation. Donc nous, on y est allé, on lui a installé les consoles, on les a installées avec elle, on lui a montré un petit peu le maniement des manettes, quelques jeux, et là elle est partie pour 3-6 mois d'animation dans sa bibliothèque. Et je sais que ça se fait dans beaucoup de bibliothèques départementales. On n'est pas les seuls. Voilà. On vient plutôt après d'autres qui l'ont déjà mis en place, d'ailleurs.
Ça y est, vous êtes réveillés.
Bonjour, donc Leslie Descazo, je travaille à la Sorbonne Université. J'étais intéressée par l'initiative de la Gaîté Lyrique dans ce qui concerne l'accueil des groupes scolaires, du coup. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des universitaires, des enseignants de fac sur des thématiques du coup du jeu vidéo? Est-ce que c'est des publics que vous devez aller chercher? Est-ce qu'ils se présentent à vous avec des projets? Voilà.
Eh bien, un peu des deux, évidemment. On a quelques enseignants qui sont venus nous voir, mais généralement, la porte d'entrée n'est pas le jeu vidéo. Sinon, c'est du public qui va venir sur une autre thématique et qu'on va, à qui on va proposer autre chose. Donc on a, je vais inclure aussi les écoles supérieures, donc on a l'école Estienne par exemple qui vient très régulièrement depuis longtemps, qui vient travailler sur des questions beaucoup plus sur notre fond documentaire, mais par ailleurs certains élèves en master ont des sujets autour du jeu vidéo. Et là du coup ça nous permet de rebondir sur mon expertise, les conseiller sur des pistes à explorer. Donc à part ça, on va avoir des étudiants de Paris 3. Une de ma collègue Laura Catabianchi donne des cours à Paris 3. Elle donne ses cours au sein de la Gaîté Lyrique. Et en fait, ces étudiants doivent, au bout d'un moment, construire une proposition d'action culturelle autour des applications sur tablette ou des jeux vidéo s'ils le souhaitent. Donc ça nous arrive effectivement pas très souvent. Mais en tout cas, on l'encourage.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Hervé Fautous, je viens de la médiathèque de Saint-Jean-de-Bré à côté d'Orléans. J'ai trois questions, deux pour Théo, une pour Julien. Première question, qui n'a pas vraiment à ouvrir le débat, mais vous avez parlé de beaucoup de jeux, des trucs qui avaient l'air d'intéressants, des sélections thématiques notamment. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la liste des jeux?
Oui. Alors, pas tous, mais en tout cas, vous trouvez sur le site internet de la Gaîté Lyrique. Alors, d'accord, attention, il faut aller chercher. Sur le site internet de la Gaîté Lyrique, vous avez une rubrique magazine. Dans cette rubrique magazine, vous avez une rubrique jeux vidéo. Et sur celle-là, vous voyez toutes les sélections de jeux vidéo que je fais depuis que le site a changé.
D'accord. Merci. Et donc vous avez déjà un petit peu répondu avec la gestion de la manette, mais bon, je pense qu'on est pas mal bibliothèques à faire des game holders, amène ton vieux, des animations un petit peu avec les seniors. Donc du coup, vous avez surtout des jeux vidéo. Est-ce que vous faites ça avec des jeux vidéo qui sont pas homothétiques? Je pense notamment à tout ce qui est jeux Wii.
Alors j'ai pas du tout entendu l'adjectif qui allait avec.
Homothétique. Puisque moi, je vous avoue que j'essaye de les amener vers quelque chose qui n'est pas du bowling, tous les jeux de sport, tous les jeux où on va reproduire le mouvement, hein, donc c'est d'où l'homothétique. Mais c'est vrai que c'est assez difficile au niveau de la gestion de la manette. Donc du coup, vous utilisez quoi comme jeu?
En fait, on utilise le matériel classique. Hein, on a abandonné la Wii depuis très longtemps et on n'a pas acheté de Wii U. En fait, du coup, les participants généralement utilisent la manette ou la souris d'ordinateur. Ça tourne un peu sur ces deux-là. Hein. L'aspect qui les inquiète le plus au début, c'est en fait une souris d'ordinateur à deux boutons et une molette éventuellement, celle qu'on utilise. La manette, elle va présenter deux joysticks, une croix directionnelle, quatre boutons, cinq boutons derrière, une gâchette et tout ça. Et en fait, la quantité rebute instantanément. Je pense que c'est très important de choisir le jeu effectivement qui, en tout cas au début, n'utilise pas tous ces boutons-là et va en utiliser peut-être deux grand maximum. Donc c'est un peu l'avantage. Et surtout notre avantage, c'est que c'est un atelier qui est sur l'année, donc c'est vraiment une progression assez longue. Petit à petit, elles apprennent à maîtriser l'outil, à même plus faire attention à ce qu'elles sont en train de faire, en fait. Un peu comme on peut apprendre à vraiment taper à l'ordinateur sans le regarder, parce qu'on a retenu où étaient les touches du clavier. Un peu pareil, elles savent à peu près où est leur pouce, et elles savent qu'elles ont juste un centimètre à faire sur la droite pour toucher un autre bouton. Elles sont moins en train de vérifier ce qu'elles sont en train de fabriquer. Je vais mettre des jeux, effectivement, l'avantage, c'est que je peux mettre un mélange en même temps, donc... je vais mettre un jeu de plateforme où on a besoin de manipuler un joystick, un bouton pour sauter et éventuellement carrément une proposition en 3D. Mais alors là, c'est l'étape au-dessus. Se repérer dans un espace en 3 dimensions, c'est déjà vraiment un petit peu plus compliqué. Et après, je vais mettre des jeux de puzzle ou d'énigmes qui nécessitent juste de cliquer, histoire de vraiment dédramatiser tout de suite. Voilà. Le jeu en 3D, j'insiste, c'est vraiment, vraiment particulier à appréhender. Gameholder a commencé comme un atelier Minecraft. Ça a été un échec cuisant. Ne pas voir ses pieds, ne pas voir ses mains, et surtout ne pas comprendre du tout ce qu'on est en train de fabriquer et si ça va avoir un impact dans le monde réel, échec.
Oui, moi pour référence, Moi, je ne peux pas faire des ateliers avec des seniors sur le long terme. Malheureusement, on fait ça de manière ponctuelle. Et donc, on est revenu sur des jeux genre les party games, en effet, où ben, y a un bouton, deux boutons à appuyer. C'est vrai que ça fonctionne bien. Merci. Donc, ma question à Julien, je vais saisir la perche. Vous avez parlé du fait que la médiathèque n'était pas un lieu neutre. Donc là, moi, je suis en pleine révision de concours là, en ce moment. Et donc, la neutralité du fonctionnaire... Merci. La neutralité du fonctionnaire, bon, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Donc, comment vous associez ça avec la neutralité fonctionnaire, le fait de ne pas être neutre?
C'est la théorie et la pratique.
Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est bien, justement, d'avoir prendre une position, dire, voilà, on veut faire de l'inclusif, on va faire de politique, mais...
Est-ce que, enfin, en fait, la question est vachement large, elle est vachement compliquée, mais il y a aussi parfois une confusion entre le pluralisme et la neutralité. Enfin, je pense qu'il y aura une journée entière à faire là-dessus, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est la différence dans la théorie. Théoriquement, on est lié à un milliard de trucs, et après la pratique, c'est que face à nos publics, on a quand même une pratique différente, on a des choses différentes. Quand je suis avec le public à l'accueil, que je discute avec eux, je suis une vraie personne. Je suis pas un. Enfin, tout le projet de Louise Michel, il est exactement construit sur ce truc-là, sur éviter d'être le bibliothécaire ou le fonctionnaire, mais d'être Julien. Julien qui aime ça et qui aime pas ça, qui préfère manger un kebab plutôt que manger tel truc. Enfin voilà, peu importe. Et je vis dans un quartier. Enfin, je vis pas du tout dans ce quartier, mais en tout cas, j'interagis dans un quartier. J'interagis avec les habitants à peu près à n'importe quel moment, quand ils sortent de l'école, quand ils vont dans le parc, quand ils vont machin. Donc, à partir de ce moment-là, où on personnalise cet échange, cet accueil, et où ça fonctionne, où on a des chiffres qui montrent que ce type d'accueil fonctionne bien pour ce quartier, pour cette bibliothèque, etc. Je peux pas tricher, je peux pas dire bah ouais non mais neutralité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient me dire, qui vient discuter de sa journée et qui me dit à quel point il est scandalisé par tel ou tel truc, je vais pas lui dire ah non, je sors mon totem fonctionnaire et ça marche pas. La bibliothèque par essence c'est un lieu qui est ouvert et qui porte un message et un projet. Il y en a pas 50 000 des lieux qui sont ouverts à tous, gratuits, qui ont une proposition inclusive dans limite dans les textes. Ça aussi c'est un message qui est politique qui existe et qui n'est pas celui de toutes les institutions ou de tous les trucs. Donc il y a besoin d'incarner ce truc là et que ce ne soit pas juste une espèce de lettre un peu morte en disant non mais c'est bon, on accueille tous les publics. Bah ouais mais bon, non, il n'y a pas valeur actuelle à la bibliothèque, tu vois, parce que ça va pas. Il n'y a pas minute non plus parce que ça va pas non plus. Il y a un truc qui cadrerait pas du tout. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir ce truc là oui, on travaille avec des associations de migrants, même si parfois ça peut mettre en délicatesse vis-à-vis de la politique générale de la ville de Paris, mais il n'y a jamais eu de problématique parce qu'il y a une certaine bienveillance de la part de la direction des bibliothèques vis-à-vis des expérimentations là-dessus. Il n'y a pas de ligne qui a été franchie. Il y a eu des cas un peu tendus, mais qui n'ont jamais été jusqu'à franchir une certaine ligne. Voilà, on assume ce truc-là. Mais c'est la même chose que sur un exemple beaucoup plus prosaïque, mais sur la consommation d'alcool à la bibliothèque. Je trouvais ça chiant de faire des soirées jeux vidéo où les gens ne puissent pas ramener leur pack de bière, tu vois. Parce qu'il y a un côté convivialité qui est important. Et ben voilà. Peut-être que dans les textes, c'est compliqué, mais dans la réalité, ça participe à la construction du lieu et donc c'est important de pouvoir prendre cette liberté-là.
Nous, c'est plutôt cidre et MM, ça, nos soirées jeux vidéo.
Ouais, mais c'est ça, mais moi, j'ai pas envie de compter le degré d'alcool et tout ça. Enfin, ça, il y a un moment, c'est chiant. On sait que la vodka pure, non, c'est non. Mais par contre, oui, ça nous est arrivé pour des soirées où on recevait un auteur de faire des Bloody Mary ou des trucs comme ça, qui sont pas. Voilà, mais en ayant conscience du cadre et en ayant conscience que le bibliothécaire était là pour maintenir un cadre agréable pour tout le monde. Donc, éviter que le tonton alcoolique vienne vider complètement le baril de trucs. Voilà, ça on fait. Mais par contre, oui, on propose de l'alcool et on n'a pas de licence 4 encore.
Merci.
Sur la dimension politique, pour compléter, il y a cette question effectivement des choix politiques sur des sujets qui sont sensibles, mais assez généralement, de toute façon, toute décision est une forme de politique. Si vous choisissez de valoriser du jeu indépendant, Ubisoft pourrait très bien dire, mais attendez, on représente une part de l'économie, pourquoi l'État privilégie le jeu indépendant ? La question, elle n'est pas là, elle est aussi de s'inscrire dans une économie générale et de faire ses choix, de valoriser certaines choses. De parler aujourd'hui des travailleurs du jeu vidéo, par exemple, c'est l'exemple que tu as eu tout à l'heure, il y a sans doute pas une omerta sur ce sujet-là, mais on en parle assez peu. Et finalement, il y a aussi la responsabilité des bibliothèques dans cette diversité des opinions, d'en montrer un état de la société qui est aussi de pouvoir prendre, de dire des choses et pas forcément s'engager. On dit aussi des choses quand on choisit les intervenants. Et finalement, dans d'autres, quand vos collègues de littérature font des choix, je doute qu'ils mettent en avant systématiquement Musso, pourtant Musso se vend très bien. Il y a aussi la volonté de montrer des choses différentes, de montrer des propos. On prend une toute dernière question et on essaiera d'y répondre de façon relativement courte.
Je suis là.
Elle est là-bas à droite. Il y en a deux en même temps. Ah. Il y a eu trois
questions. Peut-être on pourra faire... On pourra rallonger 30 secondes. Alors, vas-y.
Bonjour, Vincent Berthelet, je suis ludothécaire à Arras dans le Pas-de-Calais. Je mène deux ateliers de jeux vidéo dans la semaine, ouverts parents, enfants. Et on a par contre fixé des règles vis-à-vis de l'âge minimum. Je voulais savoir ce que vous mettez en place, vous, avant à Louise Michel ou à la Gaîté Lyrique. On a mis, nous, 6 ans. Et on essaye de se baser sur le PEGI parce que ça rassure le parent. Et de suivre quelques préconisations de pédopsie type Serge Tisseron. Voilà.
Ben, écoutez, on a fait 6 ans aussi. Après, on fait moins sur le contenu puisque de toute façon, notre contenu est très très surveillé. Je répète, l'espace de vidéo est vraiment en plein milieu de la bibliothèque. Si on a un écran qui diffuse un contenu pas approprié, on est mal barré. Donc c'est pas possible. De toute façon, tout notre contenu est abordable. Donc là, au moins, on s'enlève cette épine du pied. Et après, on va plutôt faire sur la compréhension de l'atelier et la possibilité de participer. Et donc effectivement, en dessous de 6 ans, c'est moyennement possible. Et en règle générale, ouais, on a des enfants qui vont tourner plutôt autour de 7, 8 et plutôt 9 ans généralement pour que les parents les amènent dans ce type d'activité, ils sont plutôt dans ces âges-là. Ouais.
Pareil sur la théorie, sur ces 6 ou 7 ans, j'ai plus en tête exactement la limite qu'on s'était fixée. Mais en fait, après, dans la pratique, tu as le grand frère qui vient avec sa petite sœur, la grande sœur qui vient avec son petit frère, et tu ne vas pas laisser la petite sœur toute seule à l'autre bout de la terre, donc bah, tu l'inclus aussi, et puis bah, tu aménages. C'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est là aussi physiquement pour animer, c'est que bah, tu vas jouer avec elle, ou tu vas dégainer une autre proposition en même temps, ou tu vas, c'est un truc FIFA ou autre, et puis bah, tu vas sortir une tablette pour pouvoir lui mettre un jeu qui soit plus adapté, pour pouvoir faire autre chose. Mais effectivement, il y a une limite qui est théorique, et puis après, il y a la vraie vie qui te rattrape et qui fait que tu adaptes.
La vraie vie dans les bibliothèques, ça nous... Ouais. Quand on passe les concours, vous allez voir, il y a une grosse différence. On va s'arrêter là pour cette partie-là. De toute façon, vous aurez l'occasion de recroiser Théo, parce que je vous ferai le programme de l'après-midi, mais de 14 à 16 heures, en fait, on passe en TD. Du coup, il y aura des présentations pratiques. En fait, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont dans des institutions culturelles, les intervenants, la plupart des intervenants, et puis d'autres institutions. Donc, ça sera l'occasion de poursuivre ces conversations de façon informelle. Merci, Julien. Merci, Théo. Et du coup, on passe aux applaudissements.